Eh bien, mes amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a froid? Parce qu'il y a de la place en avant. Hein. Si derrière, là, vous avez froid, ce serait quand même ridicule de dire après j'ai eu froid quand il y avait la chaleur tout près. Hein. Alors, soyez assez humble pour vous avancer. Oui, je vous en prie, oui, prenez le siège, là. Je vous ai donné des petits livres, là, c'est les actes des apôtres. Vous pourrez garder ça en souvenir de votre fin de semaine. Mais bien sûr, est-ce que quelqu'un n'en a pas? Voilà. C'est donc une portion d'une écriture. Au moins qu'il voit. Il y en a s'il en manque, j'en ai encore là-bas. C'est pas pour vous empêcher d'avoir vos Bibles avec vous, mais je ne savais pas si tous auraient leur Bible. Mais nous avons souvent dit que cette version en français courant pouvait aider à la compréhension du texte. C'est pas pour vous détacher des versions habituelles que vous possédez. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette fin de semaine, c'est le premier chapitre du livre des Actes, une partie de ce premier chapitre en relation avec la fin des quatre évangiles. Mais nous allons faire la lecture de quelques versets de ce premier chapitre. Est-ce que vous voyez tout ça assez clair pour que nous puissions lire ça ensemble à haute voix? Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant de monter au ciel, il avait donné ses instructions par la puissance du Saint-Esprit aux hommes qu'il avait choisis comme apôtres. Après sa mort, il se montra à eux en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins pour parler de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée, de la Samarie, et jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. Après avoir dit ces choses, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'ils le regardaient, et un nuage le cacha à leur vue. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés de blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Bien, que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons de lire. Et maintenant, je vous invite à reprendre vos Bibles parce que peut-être nous irons dans d'autres portions que le texte que nous venons de lire ensemble. Mais c'était bien peut-être que nous en fassions la lecture dans la même version. Cela nous aide à comprendre. Ce livre des Actes et des Apôtres, comme vous le savez, a pour auteur qui ? Luc. Et Luc, vous n'ignorez pas qu'il a été celui qui a composé l'évangile qui porte son nom, c'est-à-dire le troisième évangile que nous possédons. Il y a, quand nous ouvrons le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, qui était un des disciples de Jésus, un des apôtres de Jésus. Il y a ensuite l'évangile de Marc, qui était le fils d'une certaine Marie, qui habitait Jérusalem, et qui était parente de Barnabas. C'est pourquoi ce Marc, qui a écrit l'évangile, était le cousin de Barnabas. Et il avait comme mère une femme qui s'appelait Marie, et qui habitait Jérusalem, et dans la maison de laquelle une de ces assemblées de Jérusalem se réunissait. Vous savez que c'est là que l'apôtre Pierre, lorsqu'il fut libéré miraculeusement par l'ange, alors qu'il était en prison, c'est là chez cette Marie qu'il se rendit. Et cette Marie était une femme, semble-t-il, riche, qui avait donc une maison et qui avait une servante qui s'appelait Rhode. Et c'est cette fameuse Rhode qui a laissé l'apôtre Pierre derrière la porte. Parce que tous les frères qui étaient réunis là, dans la maison de Marie, à Jérusalem, et qui savaient que l'apôtre Pierre, celui qu'ils aimaient tant, allait être exécuté le lendemain matin, ils étaient réunis pour une réunion de prière. Et quand on se réunit pour une réunion de prière et qu'on a une demande précise à faire au Seigneur, on espère quoi ? Bon, on espère être exaucé, hein ? On espère que Dieu va nous répondre. Et qu'est-ce qu'il demandait instamment, ces croyants réunis chez cette Marie, mère de Marc ? La libération de l'apôtre Pierre. Puis voilà que ça se fait, cette libération. Pas par eux-mêmes, pas par un coup de force que les disciples auraient organisé, mais par un ange. Un ange du ciel intervient pendant qu'eux sont en prière. Et voilà notre Pierre qui arrive seul et qui frappe à la porte. Mais voilà, on continue de prier. Mais comme on frappe à la porte, la servante, son rôle, c'est d'aller ouvrir. Puis elle entend la voix de Pierre qui insiste derrière la porte. Elle a tellement de joie qu'elle court vers les frères puis qu'elle leur dit, ben, je pense qu'elle a pu leur dire un truc comme ça. Louez le Seigneur, maintenant il est là, il est là. Et qu'est-ce qu'ils lui disent ? C'est vrai. Voilà notre genre de réunion de prière. On demande au Seigneur quelque chose, et puis quand il nous exauce, c'est pas possible. C'est ça ? Est-ce que nous sommes pas un petit peu comme ça ? Eh bien voilà, le deuxième évangile, donc, c'est cet évangile de Marc, le fils de cette Marie, où se réunissait l'Église, une partie, disons, de l'Église de Jérusalem. Puis après, vous avez le troisième évangile, qui est celui de Luc. Luc, qui était médecin de sa profession, et qui était devenu le compagnon de l'apôtre Paul. Et c'est le seul évangéliste qui n'ait pas été un juif. Luc était grec. Et donc, il avait écrit son évangile pour un certain Théophile, qui était un homme aussi considéré et considérable. On pense que c'était un croyant de l'église d'Antioche. Et ce Théophile avait exprimé le désir d'avoir le récit très précis de la vie de Jésus. Et c'est Luc qui a entrepris d'écrire cet évangile que nous avons en troisième lieu dans le Nouveau Testament. Puis enfin, vous avez l'évangile de Jean, qui est le quatrième évangile. Et après l'évangile de Jean, vous avez un livre historique donc qu'on appelle les Actes des Apôtres. Et pour bien comprendre ces quatre évangiles, et c'est ce sujet-là que j'aimerais réellement traiter avec vous dans les quelques moments que nous aurons, il faut absolument lire ces versets des Actes des Apôtres. Sans cela, on a toujours l'impression qu'il y a des contradictions. Au sujet de la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que si vous lisez le récit de Matthieu, puis ensuite le récit de Marc, le récit de Luc et le récit de Jean, au sujet des résurrections, de la résurrection de Jésus, il nous semble qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur de vous lire ces premiers versets du livre des Actes des Apôtres, qui est donc la suite de l'évangile de Luc. C'est le même auteur, hein. Luc a écrit, et puis il continue dans un deuxième écrit, qu'on appelle les Actes des Apôtres, de raconter à ce Théophile ce qui s'est passé à la résurrection. Et c'est là qu'il faut bien se souvenir que dans le chapitre 24 de Luc, au fond, Luc avait donné un raccourci des événements. Il avait déjà parlé de l'ascension du Seigneur. Mais quand on lit le livre de Luc, le dernier chapitre, il semble que tout s'est passé dans la même journée. Or, tout ne s'est pas passé dans la même journée. Les événements qui sont racontés dans le chapitre 24 de Luc et qui sont résumés, qui sont condensés par Luc, s'étalent sur combien de jours? Il s'étale sur 40 jours. Et c'est ça que vous devez bien comprendre. Et si vous vous souvenez de cela, que depuis la résurrection de Jésus jusqu'à son ascension, il y a eu 40 jours, eh bien, tout va s'éclairer d'une façon réellement merveilleuse. Et vous voyez, c'est dans le livre des Actes que nous apprenons que les choses se sont passées en 40 jours. Parce que si vous lisez l'évangile de Matthieu, eh bien, il vous semblera que, au fond, Jésus ressuscité dit aux femmes qu'il rencontre le jour de sa résurrection qu'elles allaient dire à ses disciples qui le pleurent d'aller où? Où est-ce qu'il leur donne rendez-vous? En Galilée. Hein. Puis, dans l'évangile de Matthieu, il est dit, allez en Galilée, c'est là que vous me verrez. Le Seigneur leur avait dit, l'ange les avertit d'aller en Galilée, dites à ses disciples d'aller en Galilée, c'est là que vous le verrez, car le Seigneur le leur avait dit. Et si vous lisez au chapitre 26 de Matthieu, eh bien, vous voyez que c'était vrai, le Seigneur leur avait dit cela lors de son dernier repas, chapitre 26 de Matthieu, il leur dit au verset 31, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous, où ? En Galilée. Et quand les femmes sont venues au tombeau, au chapitre 28 de Matthieu, eh bien, que voyez-vous ? Quand elles arrivent au sépulcre, verset 2, voici un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendant du ciel vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Son aspect était comme un éclair, son vêtement blanc comme la neige, et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts, puisque les Juifs avaient mis des gardiens au tombeau. Et l'ange répondant dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait, et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous, où ? En Galilée. Là, vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Et les femmes s'en vont, j'abrège, et puis sur le chemin, alors qu'elles sont sur le chemin qui va du tombeau à la ville de Jérusalem, verset 9, comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici Jésus vint au-devant elles et leur dit, je vous salue. En grec, ce mot, salut, vous savez ce que ça veut dire ? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. La première parole que Jésus dit à ses femmes, réjouissez-vous. Il était là, lui, le Seigneur, vivant, je vous salue, ou salut, en grec c'était réjouissez-vous. C'était la salutation des Grecs. Quand ils disaient salut, ça voulait dire réjouissez-vous. Et elles s'approchant, lui saisirent les pieds et lui rendirent hommage. Alors Jésus leur dit, n'ayez point de peur, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. Donc, vous voyez, dans cet évangile, il est toujours souligné que le rendez-vous est en Galilée. Mais quand les femmes sont allées raconter cela aux disciples, est-ce que les disciples les ont cru? Non, elles ne l'ont pas cru. Elles ne sont pas parties en Galilée. Alors, quand nous ne croyons pas et que nous n'obéissons pas, est-ce que le Seigneur ira tout seul pour nous manquer, puisque nous n'irons pas, qu'est-ce qu'il fera? Oui, et il viendra sur nos chemins. Et c'est pourquoi vous voyez que après sa résurrection, le Seigneur, au lieu d'aller tout de suite en Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à Jérusalem. Et comme nous aurons l'occasion de le voir, il a eu une petite entrevue avec Pierre, je pense, peut-être à une ou deux heures d'après-midi. Et puis ensuite, il est allé sur le chemin d'Emmaüs parce que les disciples, ne croyant pas qu'il était ressuscité, il y en a deux qui sont partis de Jérusalem déjà, pour aller non pas en Galilée, mais où ? À Emmaüs. Pas même au tombeau, puisqu'on disait qu'il était vide. Et puis, le bruit courait déjà à Jérusalem que les disciples avaient enlevé le corps du Seigneur, de sorte que la nouvelle que le tombeau était vide, eh bien, elle était connue, mais on n'avait pas trouvé le corps, alors c'était inutile d'aller encore une fois au tombeau. Il y avait eu plusieurs témoins qui étaient allés au tombeau, ils n'avaient pas trouvé Jésus. Alors il semble, n'est-ce pas, qu'il y a des contradictions. Et pourtant, la parole ne se contredit pas. Il fait froid ? Vous dites qu'on met encore une bûche ? Oh oui. Alors, en lisant l'évangile de Luc, on voit que, donc, dans l'après-midi, le Seigneur s'est révélé à deux voyageurs, comme il avait parlé aux femmes le matin, comme il avait parlé même à Marie, Madeleine, tout ça, on verra ça ensuite. La première à qui il a parlé, c'est à Marie de Magdala, puis ensuite, il a parlé à ces femmes qui revenaient du sépulcre. On n'a cru ni Marie-Madeleine, qu'on a pris pour une folle, ni ses compagnes, et les disciples sont restés à Jérusalem, sauf deux qui sont partis à Emmaüs dans une autre direction que la Galilée. Alors, le soir étant venu, Jésus les a trouvés où ils étaient donc, à Jérusalem. Et là, vous voyez que Jésus s'est trouvé le premier soir à Jérusalem, quand les portes du lieu étaient fermées, vous avez ça dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean, et il leur a dit la paix soit avec vous. Mais il manquait un disciple. Lequel ? Thomas. Et les autres disciples, tout en ayant vu le Seigneur ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils sont partis en Galilée après avoir vu le Seigneur à Jérusalem ? Non, ils sont restés encore 8 jours. Ils sont restés encore 8 jours à Jérusalem. Pour quelle raison est-ce que je peux dire cela ? Parce que 8 jours après, Jésus est revenu dans le même lieu où il s'était manifesté. Donc on pense que c'est dans la chambre haute. Les disciples étaient encore là à Jérusalem. Mais ils étaient toujours dans la frayeur. C'est pourquoi les fenêtres, les portes du lieu où ils étaient fermées parce qu'ils avaient peur de la persécution. Alors Jésus revient une seconde fois, donc 8 jours après, il revient à Jérusalem. Ils ne sont toujours pas partis en Galilée où il leur a donné rendez-vous. Alors Jésus vient les trouver là où ils se trouvent, à Jérusalem. Et comme il sait très bien ce que Thomas a dit de lui, parce que quand les disciples lui ont dit, alors qu'il n'était pas à cette première rencontre du soir de Pâques, mais nous avons vu le Seigneur s'est manifesté à nous, puis il y avait eu les deux disciples d'Emmaüs qui étaient revenus de leur village d'Emmaüs pour trouver les disciples et dire, nous l'avons rencontré sur la rue, puis eux disent, mais oui, mais nous le savons, il est même apparu à Pierre. Le Seigneur est ressuscité, puis il était apparu à Pierre, à l'apôtre Pierre. Alors, pendant qu'ils étaient là et qu'ils discutaient ensemble avec les disciples d'Emmaüs, le Seigneur s'était présenté au milieu d'eux. Alors là, on retombe dans l'évangile de Jean. Hein, et il leur avait dit, paix vous soit. Mais ils avaient douté. Et alors le Seigneur leur avait montré ses mains, ses pieds. Et puis, comme ils doutaient encore, ils croyaient que c'était un esprit, il leur a dit, mais touchez-moi ! Touchez-moi, un esprit n'a pas de corps, comme vous voyez que j'ai, c'était bien le Seigneur. Regardez mes mains, regardez mes pieds, touchez-moi. Puis, malgré ça, malgré qu'ils l'ont touché, parce que Jean, l'apôtre, quand il écrit sa lettre, il dit, ce que nous y avons vu, ce que nous avons entendu de nos oreilles, ils ont bien reconnu sa voix, finalement. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ils l'avaient touché. Et comme ils ne croyaient pas encore, qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Alors ils lui ont donné du poisson et du miel, et il a mangé devant eux, non pas parce qu'il avait besoin de manger, c'était plus une nécessité, il avait un corps glorieux, un corps qui n'a plus besoin d'être nourri, mais pour leur prouver qu'il y a réellement un corps dans la résurrection, que dans la résurrection nous aurons un corps, mais un corps qui n'est plus soumis aux lois de la matière, eh bien pour leur prouver que c'était réellement un corps, il a mangé devant eux. C'est quand même merveilleux de penser à ça. Il leur a donné, il a voulu leur donner des preuves que c'était vrai qu'il était ressuscité, que c'était pas simplement une apparition. Puis Thomas, en entendant les disciples comme lui, il n'avait pas vu ça, il dit, mais moi, si je ne mets pas mes doigts dans les empreintes des clous, eh bien, je ne croirai pas. Est-ce que ça ne nous arrive pas, nous aussi, d'avoir des doutes comme ça? Ce que celui-là raconte, on ne peut pas le croire. Il faudrait que moi, je voie de mes yeux. Il faudrait que j'entende de mes oreilles. Il faudrait que je touche de mes mains pour que je croie. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Jésus qui leur avait donné un rendez-vous en Galilée, on n'a pas cru les femmes. Il leur est apparu. Donc les femmes avaient raison. Il a donné raison aux femmes. Il était là. Il s'est fait toucher par ces hommes, par ces grands apôtres. Eh bien, ils n'ont pas encore décollé de Jérusalem. Ils ont continué à se calfeutrer encore 8 jours dans cette ville où ils étaient en danger, où ils avaient peur. Eh bien, 8 jours après, le Seigneur est revenu au milieu d'eux. Et il a tout de suite appelé Thomas, parce que Thomas était là. Il a vu si Thomas, c'est ça qui est fantastique. Donc Dieu sait ce qui se passe dans nos cœurs, puis il entend ce que les paroles que nous disons. Mets maintenant ton doigt dans mes plaies, mets ta main dans mon côté. Alors Thomas s'effondre, mon Seigneur et mon Dieu. Et alors qu'est-ce qui se passe après ça? Après ces 8 jours, ça fait 8 jours qu'on est à Jérusalem depuis Pâques. Évidemment, les disciples finissent par s'en aller en Galilée. Et ils sont allés en Galilée, en effet. Et le Seigneur leur avait donné rendez-vous sur une certaine montagne. Alors là, vous retrouvez Matthieu qui vous donne ces détails que le Seigneur leur avait donné rendez-vous donc en Galilée, et finalement les disciples ont quitté Jérusalem 8 jours après la Pâque, sont allés en Galilée, et ils ont vu le Seigneur sur cette montagne, et il a été avec eux en Galilée pendant plusieurs jours, où il a pu leur parler, où il a pu les enseigner, et même il n'a pas été seulement sur une montagne de Galilée, comme on le voit dans Matthieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, on le voit un matin, où? Sur le bord de la mer. Parce que les disciples, qu'est-ce qu'ils étaient au fond? Ils étaient pêcheurs, ils étaient de Galilée. Et alors, Jésus étant ressuscité, Jésus n'étant plus constamment avec eux, Jésus leur ayant annoncé qu'il allait retourner vers son Père, ils devaient reprendre leur activité. Et ils sont tous retournés, alors finalement, en Galilée. Et ils ont repris leur tâche. Et c'est pourquoi on voit dans Jean, un beau matin, alors qu'ils ont travaillé toute la nuit, tout à coup, 7 de ses disciples, et j'aime bien y trouver qui parmi les 7 qui sont maintenant en Galilée, ils ne sont plus à Jérusalem. Près de la mer de Tibériade, il se manifesta ainsi. Simon Pierre, Thomas, voilà, notre Thomas, qui était à Jérusalem. Il est là maintenant, il est en Galilée. Ils sont arrivés en Galilée, selon ce que les femmes leur avaient dit, et selon ce que Jésus avait commandé. Ils sont là, Thomas aussi, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, et les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean. Et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon leur dit, je vais pêcher. Et ils lui disent, nous allons aussi avec toi, et sortir et monter dans la nacelle. Et cette nuit, ils ne prirent rien. Et le matin venant, déjà, Jésus se tint sur le rivage. Vous vous rendez compte, maintenant, vous voyez Jésus sur le rivage. On a vu Jésus dans un jardin. Si vous lisez le chapitre 20 de Jean, quand Marie-Madeleine attend, là, auprès du sépulcre,
et qu'elle n'est pas satisfaite, elle n'a pas trouvé le Seigneur, alors elle est là, qui pleure. Eh bien, Jésus lui apparaît dans un jardin. Ensuite, vous voyez Jésus aussi sur le chemin, qui apparaît à ses femmes, et qui leur confirme qu'il faut que ses disciples aillent en Galilée. Ensuite, il apparaît à Pierre, comme on lit dans Luc, puis il apparaît aux disciples d'Emmaüs sur le chemin, il se révèle à eux dans la fraction du pain le soir, les disciples retournent à Jérusalem et ce premier soir, premier jour de la semaine, Jésus apparaît aux disciples à Jérusalem. 8 jours après, il apparaît une seconde fois à Jérusalem et puis ensuite alors vous les trouvez en Galilée, il est là au bord du rivage et Jésus les appelle, verset 5, et leur dit « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Elles lui répondirent « Non ». Et il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la nacelle et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la multitude des poissons. Est-ce que c'était la première fois que Jésus faisait ça? Lisez le chapitre 5 de Luc et vous verrez que il avait déjà fait cela une fois dans les jours de sa chair où il était considéré comme le fils de Joseph. Il avait dit à l'apôtre Pierre qui avait travaillé toute la nuit pour trouver du poisson et qui n'avait rien pris, mène en pleine eau et puis qu'est-ce qui s'est arrivé? La pêche miraculeuse. Alors il se produit exactement la même chose. C'est bien le même personnage. Jésus ressuscité accomplit un même miracle. Mais le miracle est encore plus grand, parce qu'il y a une différence quand vous lisez la pêche miraculeuse du 5 de Luc et cette pêche miraculeuse de Jean. Qu'est-ce qui est différent? Quand ils ont tiré les filets, ils sont rompus la première fois. Tandis que maintenant qu'il est ressuscité, ils ne se sont pas rompus. Et ils ont pu même compter le nombre de poissons qui étaient là. Et quand ils amènent le filet au bord du rivage, et que Pierre, au fond, s'est jeté à l'eau pour aller à la rencontre du Seigneur, est-ce que c'est la première fois qu'il le revoit, l'apôtre Pierre? Il semble d'après cet évangile, hein. Mais si vous lisez les 4 évangiles, qu'est-ce que vous voyez? Jésus avait déjà rencontré Pierre. Et quand est-ce qu'il l'avait rencontré? Le premier jour de sa résurrection. C'est ça qui est merveilleux. Pierre, qu'aurait pu se dire le jour de la résurrection, donc 3 jours après quoi? Après son reniement. Eh bien, le Seigneur l'avait vu. Mais c'est pour ça qu'il faut lire les 4 évangiles. Il n'y a pas de contradiction. Mais Pierre avait besoin d'une visite du Seigneur. Et il l'a visité en Judée même, là où il avait fait son péché, dans la ville même de Jérusalem. Le Seigneur était apparu à Pierre. C'est ce que vous avez dans le témoignage que nous lisons dans l'évangile de Luc. Il est apparu à Pierre. Et maintenant, alors, le Seigneur lui-même ses disciples dans cet évangile de Jean. Il leur dit, venez dîner. Vous vous rendez compte, Jésus ressuscité qui prépare un dîner à ses disciples. Il leur a préparé à dîner. Où? Au bord du lac de Tibériade, en Galilée. Le ressuscité prépare un repas à ses disciples. Et quand les disciples arrivent, quand il leur dit, venez dîner. C'est un court verset, ça, hein? Mais Jésus l'a dit, Jésus ressuscité a dit, venez dîner. Non seulement il a mangé avec eux, mais il leur a préparé à manger. Verset 9. Quand ils furent donc descendus de terre, ils voient là la braise du poisson mis dessus et du pain. Donc Jésus sait faire la cuisine. Voilà qui vous encourage pour nos sœurs qui nous ont préparé tout cela. Jésus lui-même a fait ce travail-là. Et ça n'a pas été une corvée.
C'est-à-dire quelque chose de pénible.
Il a fait ça avec joie. Il a pris le ressuscité. Et puis nous ne pourrions pas faire quelque chose pour Jésus. Le ressuscité a préparé à dîner à ses disciples qui avaient travaillé toute la nuit et qui n'avaient rien pris, qui étaient peut-être déçus. Et Jésus les accueille. Que c'est beau. Pensez à cela. Puis il leur dit, verset 10, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Pierre monta, tira le filet à terre, plein de 153 poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet n'avait pas été déchiré. Tandis que si vous lisez le chapitre 5 de Luc, dans la première pêche miraculeuse, le filet s'était rompu, s'était déchiré parce que à cause de cette... Mais c'est bien le Seigneur. Jésus dit, venez dîner, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain, le leur donne, de même que le poisson. Ce fut là la troisième fois, déjà, que Jésus fut manifesté aux disciples, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Là, il faudrait dire, c'est une troisième fois qu'il s'est montré, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas montré d'autres fois. Parce que si vous lisez l'ensemble des évangiles, le chapitre 1er des Actes, et je dirais même aussi le commencement du chapitre 15 des Corinthiens, combien de fois est-ce que le Seigneur s'est manifesté à ses disciples ressuscités? Au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Et c'est pour cela, et je reviens maintenant à mon texte des apôtres, pour vous dire ce que j'avais sur le cœur, que vous méditiez. J'aimerais que vous puissiez, si vous en avez le temps, relire la fin des 4 évangiles, les derniers chapitres. Chapitre 28 de Matthieu, chapitre 16 de Marc, chapitre 24 de Luc, et chapitre 20 et 21 de Jean. Notez-y toutes les contradictions que vous voulez. Puis on verra s'il y a des contradictions. Essayez aussi de noter, ça peut-être dans un autre moment, dans un autre jour, les paroles du ressuscité. C'est quelque chose de formidable. De vous souvenir de ce que Jésus ressuscité a dit. Les paroles du ressuscité. Une de ses premières, je vous salue. Ou celle qu'il dit à Marie-Madeleine, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Puis le fameux ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon père. Et puis alors, dans Matthieu, les femmes qui le rencontrent en chemin, elles, le touchent. Alors, est-ce qu'il y a contradiction? Mais c'est qu'il est monté vers son père. Il y a au fond deux ascensions. Il est monté vers son père. Puis, il est revenu. Ce n'est pas encore l'ascension réelle, l'ascension finale, mais il n'y a pas de contradiction. Mettez tout cela ensemble et vous verrez se dégager des vérités merveilleuses. Et surtout, ce que je voudrais souligner ce soir, c'est ceci. Ce que vous lisez maintenant dans le livre des Actes. J'ai composé le premier traité au Théophile, c'est donc quel évangile? De Luc, hein? Bon. Ben, lisez le dernier chapitre. Sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, ça c'est tout ce que vous avez dans l'évangile de Luc, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Alors, si vous lisez seulement le dernier chapitre de Luc, il semble que c'est le même jour que la résurrection, qu'il est monté au ciel. Mais non, Luc a tout résumé. Il a donné des grandes lignes de ce qui s'était passé. Il devait finir son évangile. Alors il reprend maintenant dans les Actes et il nous donne des détails. Et nous apprenons donc qu'avant de monter au ciel, il a donné des ordres à ses apôtres. Alors vous pourriez mettre aussi, quels sont les ordres? Faire une étude biblique sur quels sont les ordres que le ressuscité a donné à ses apôtres. À qui aussi, à ses apôtres qu'il avait choisis, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées. Alors vous pourriez marquer quelles sont les preuves que Jésus a données de la réalité de sa résurrection. Quelles sont réellement les preuves qu'il a données? J'ai essayé de vous en faire passer devant vos yeux quelques-unes. Les preuves assurées de sa résurrection. Étant vu durant combien de jours? 40 jours, et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit aux femmes? Dites à mes disciples d'aller où? En Galilée. Puis quand vous lisez uniquement ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il dit? Ne partez pas de Jérusalem. Alors, si vous oubliez qu'il y a eu 40 jours, il y a des contradictions. Et c'est ce que beaucoup de théologiens vous disent. Vous voyez, c'est plein de contradictions dans l'Écriture. Vous ne pouvez pas faire coller les quatre évangiles ensemble, les quatre récits des évangélistes. Et puis, d'autre part, il dit qu'ils doivent rester à Jérusalem, puis en même temps, il leur dit qu'ils doivent aller en Galilée. Mais voilà, quand nous y allons avec notre intelligence, avec notre petit esprit, on voit des contradictions partout. Quand on y va avec l'Esprit de Dieu, on est émerveillé. Et on voit qu'en 40 jours, on peut très bien être un temps à Jérusalem, un temps en Galilée, puis un autre temps de nouveau où? À Jérusalem. Alors, les premiers 8 jours, on les voit vraiment à Jérusalem, mais pour quelle raison? À cause de l'incrédulité des disciples qui n'ont pas cru le témoignage des femmes et qui ont de la peine à quitter ces lieux parce qu'il y a encore des doutes. Finalement, ils s'en vont en Galilée. Pour quelle raison? Ben parce que Jésus a commencé son travail en Galilée et c'est beaucoup plus paisible d'être en Galilée. Nous qui sommes allés ensemble, hein, vous vous souvenez des moments extraordinaires passés sur l'herbe où on pouvait parler, par exemple, à Ayelet HaShachar, dans la haute Galilée, on était tranquille, on pouvait y passer toute une soirée à s'entretenir, à écouter notre guide. On était vraiment tranquille en Galilée, tandis qu'à Jérusalem, on n'a pas beaucoup de repos. Alors, on peut vraiment voir le Seigneur donner ses enseignements, leur parler du royaume de Dieu, à quel endroit? En Galilée. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont à Jérusalem peu de temps avant la Pentecôte? Oui, le Seigneur avait promis ça, mais quelle est la raison qu'ils aient monté les Juifs? C'est la fête. Et tout Juif était tenu de monter combien de fois par année? 3 fois. Il devait être à 3 fêtes à Jérusalem. Laquelle? La fête de Pâques, n'est-ce pas, qui rappelait la sortie du pays d'Égypte. C'est pourquoi Jésus a toujours observé ça. Les 3 Pâques de Jésus, dans ses 3 années de ministère, il les a passées à Jérusalem. Puis ensuite, la seconde fête, qu'on appelle la fête des prémices, ou la fête de la moisson, c'était la Pentecôte, qui rappelait quoi aux Juifs? Le don de la loi en Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte, ils étaient au pied de la montagne du Sinaï. Et là, qu'est-ce qu'il fut donné au peuple d'Israël? La loi. Et tout Juif, pour respecter les obligations de la loi, montait à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. De sorte qu'on voit très bien maintenant, les Juifs, même les Galiléens, sont montés en vue de la Pentecôte à Jérusalem. De sorte qu'ils étaient à Jérusalem 10 jours avant la Pentecôte. Et ce 10e jour avant la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est produit ? Qu'est-ce qui s'est produit ? L'ascension. Alors, ce que je voudrais terminer simplement en vous montrant ceci. Le ministère de Jésus s'est passé entre 2 quarantaines. C'est vrai ou c'est faux ? Avant de commencer son ministère, après le baptême de Jean, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus a été 40 jours dans le désert. Dans le jeûne et dans la prière pour préparer son ministère. Et c'est après avoir vaincu la tentation, toute tentation, avoir triomphé de Satan, qu'il commence son ministère. Et ensuite, après sa résurrection, combien de temps reste-t-il avec ses disciples ? 40 jours. 40 jours, c'est le chiffre de l'épreuve, pour leur donner toutes les preuves, assurer qu'il est réellement ressuscité, qu'il n'est pas simplement une apparition, il est ressuscité. Et durant les 40 jours qui suivent Pâques, eh bien, nous voyons Jésus apparaissant aux siens pour les réconforter, pour les consoler, pour leur dire « J'ai vaincu la mort ». La mort ne retiendra aucun de ses captifs. Il est vivant. C'est vrai qu'il est vivant. Et aussi vrai que Jésus s'est laissé toucher, eh bien, ceux qui sont morts dans le Seigneur, eh bien, nous les retrouverons réellement vivants. Dans un corps semblable au corps du Seigneur Jésus. De sorte que tout le reste doit s'effacer. Mais c'est vrai, vous retrouverez ceux qui vous ont devancé. Non plus pour avoir des relations comme nous les avons eues sur la terre, des relations charnelles, nous serons comme les anges de Dieu. Mais réellement vivants et sachant qui sont ceux et qui sont avec le Seigneur. Il est lui, les prémices de ceux qui ressusciteront. Et c'est quelque chose de merveilleux de penser à cela. Alors, mes amis, je vous ai dit tout cela parce que dans quelle période sommes-nous maintenant ? Nous sommes dans justement cette période des 40 jours qui sépare la Pâque de l'Ascension. Dans cette période des 50 jours qui prépare et qui sépare la Pâque de la Pentecôte. Et alors, au lieu qu'à la Pentecôte ce soit la loi qui soit donnée, qu'est-ce que ce sera ? Le Saint-Esprit qui va pouvoir nous donner la force que nous n'avions pas d'accomplir la loi. C'est pourquoi la Pentecôte chrétienne est toute différente de la Pentecôte juive. À la Pentecôte juive, on se souvenait du don de la loi, mais qui est-ce qui pouvait accomplir la loi ? Personne. Tous étaient condamnés. Tandis que dans la Pentecôte chrétienne, le Seigneur leur dit, vous allez recevoir une puissance, une force. Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez alors mes témoins. Alors, je souligne simplement cela, pour que vous puissiez avoir quelques pistes de réflexion sur lesquelles vous pourrez méditer. En ce samedi de mai, nous sommes 28 jours après Pâques, nous sommes 12 jours avant l'événement historique de l'Ascension, qui a eu lieu où ? Si vous lisez Matthieu, vous pouvez croire qu'il y a eu lieu en Galilée, non ? Si vous lisez les 4 évangiles, et que vous vous laissez former par le Saint-Esprit, l'Ascension a eu lieu où ? à Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. Il les conduit dehors sur la montagne des Oliviers le 40e jour et il leur a donné ses derniers ordres après leur avoir donné toutes les preuves réelles de sa résurrection. Il les a entretenus des choses concernant le royaume de Dieu et puis ensuite, après avoir mangé et bu avec eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'il a mangé et bu avec eux. L'apôtre Pierre, quand il prêche l'évangile, il dit, c'est vrai qu'il est ressuscité, nous avons mangé et bu en sa présence, nous avons mangé et bu, non pas seulement en sa présence, mais il est dit, avec lui. Et avant l'ascension, littéralement, et je crois que c'est bien de souligner, il a pris un dernier repas avant d'aller au ciel. Pas parce qu'il en avait besoin, mais c'est au cours d'un dernier repas qu'il a pris congé de ses disciples, puis il les conduit, après leur avoir fait la promesse, vous allez recevoir le Saint-Esprit, restez à Jérusalem, il les conduit sur le mont des Oliviers, puis pendant qu'il leur regardait, le Seigneur a élevé les mains et les a bénis. Et qu'est-ce qu'ils ont vu encore dans ses mains? Oh, j'ai ma pensée à ça. Quand Jésus montait, il avait levé les mains. Et qu'est-ce qu'il y a, il pouvait voir dans ses mains? Ses trous, les marques des clous. Et puis il est dit, une nuée reçue. J'aime tellement le psaume 104. Qu'est-ce que c'était cette nuée? C'était le char de l'Éternel. Chaque fois que vous avez l'Éternel dans une manifestation, dans ce qu'on appelle une théophanie, il est sur les nuées. Et vous voyez, il y avait le char de l'Éternel qui l'attendait. Il n'y a pas eu besoin d'un chariot de feu comme pour Élie, parce que Élie devait être purifié. Mais là, c'est les nuées. Il est dit ceci, verset 3 du chapitre 100, du psaume 104, « Il fait des nuées son char. » Il fait des nuées son char. Eh bien, le Seigneur monte en les bénissant et puis il est emporté sur son char, sur les nuées du ciel et il s'en va. Et tandis qu'ils sont en train de le regarder s'en aller, il y a l'apparition des anges qui leur dit, mais pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce Jésus qui s'en est allé au ciel, il reviendra de la même manière. Alors mes amis, méditez un peu sur cela, repassez cela dans vos cœurs, essayez de retrouver le nombre de ces apparitions, de mettre un peu d'ordre dans tout cela, et de vous demander, mais pourquoi est-ce que Matthieu ne dit pas tout? Pourquoi est-ce que Marc ne dit pas tout? Au lieu de dire, pourquoi est-ce qu'il y a des oppositions entre eux? Il n'y a pas d'opposition entre eux. Pourquoi est-ce que nous trouvons un récit d'une certaine forme dans Luc et puis un autre dans Jean? Dans Jean, est-ce qu'il est parlé de l'ascension? Est-ce que l'évangile de Jean nous raconte l'ascension? Non, la fin de l'évangile de Jean ne nous rapporte pas l'ascension. On voit Pierre qui suit Jésus, puis on voit l'apôtre Jean qui marche à la suite de Pierre. Mais où vont-ils? Si vous étudiez ces quatre évangiles, vous verrez que les évangiles finissent comme ils commencent. Comment a commencé l'évangile de Jean? Récit de la crèche? Non. Le commencement de Jésus n'était pas à la crèche. La fin de Jésus ne pouvait pas être à la croix. Alors, où vont-ils? C'est l'éternité. Il y en a un qui apprend qu'il devra mourir dans l'évangile de Jean. C'est qui? Pierre. Mais il y en a un autre qui suit Pierre. Et Pierre demande à Jésus, mais à l'autre, qu'est-ce qui lui arrivera? Et qu'est-ce que Jésus répond? que tu importes toi, suis-moi, mais qu'est-ce qui lui arrivera? Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, alors Jean, c'est le type de quoi? Qui c'est qui pourrait vivre jusqu'à ce que Jésus vienne? Est-ce que vous devriez tous mourir? Il y a une génération qui ne verra peut-être pas la mort. C'est pas que Jésus nous dit vous ne mourrez pas, mais il nous laisse penser qu'il y a une génération qui ne passera pas par la mort si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Et c'est pour ça qu'on a dit que Jean ne mourrait pas. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais il avait dit simplement si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Bien nous ne savons pas si nous serons vivants au retour du Seigneur, mais nous pouvons penser que peut-être nous serons de ceux et qui ne passeront pas par la mort et qui seront enlevés sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Pierre, alors, qu'est-ce qui lui arrivera? Il sera ressuscité. Ceux qui sont déjà morts, nous ne les devancerons pas, mais eux, ils seront ressuscités et on sera ensemble. Dans la fin de l'évangile de Jean, vous voyez Jean et Pierre ensemble qui suivent qui? Jésus. Mais où vont-ils? C'est la gloire. Il vient de la gloire, premier chapitre de Jean, au commencement était la parole, puis ils finissent dans la gloire, ils finissent ensemble. Nous les vivants qui demeurons, nous ne vaincrons pas ceux qui sont endormis, mais nous serons ravis ensemble sur les nuées. Il y en a qui ne verront pas la mort. Et Jean, justement, est une figure de cette église enlevée qui ne verra pas la mort. Mais Pierre, qui lui sait qu'il doit mourir, puisque Jésus le lui a annoncé, il y en a qui passeront par la mort, puis il y en a d'autres qui seront vivants à l'heure de son retour. Combien cela est beau. Alors au lieu de voir des contradictions, apprenons à connaître chaque caractère de ces évangiles et nous serons bénis, nous serons encouragés, nous serons fortifiés, nous ne verrons plus des contradictions, mais nous serons remplis d'adoration, cette adoration que nous aimerions donner au Seigneur, s'il nous permet d'être encore ici demain matin. Bien, qu'est-ce que vous pensez, Josaphat, pour demain matin? Est-ce qu'on peut avoir une petite méditation d'abord?